Bonjour.
D'abord, essayons de vulgariser, d'expliquer ce qu'est un coronavirus.
Vous l'avez très bien prononcé, ce qui est déjà ce qui est déjà une première étape. Le coronavirus, en fait, c'est un virus qu'on connaît quand même depuis plusieurs années. Il y en a plusieurs types. On peut avoir des formes très banales qui s'apparentent à un rhume, mais à l'autre extrémité du spectre, on a aussi des infections très sévères, des pneumonies qui peuvent même engendrer le décès des patients. Dans le cas du coronavirus isolé en Chine, ça semble être un nouveau type de coronavirus. Donc, ce qui nous amène à nous inquiéter un peu. Dans le passé, on a eu aussi plusieurs types de coronavirus qui ont été particulièrement virulents.
Le SRAS.
Au SRAS, exactement, au début des années 2000. Plus récemment, il y a eu un autre type de coronavirus isolé au Moyen-Orient qui est aussi d'une sévérité accrue. Mm-hmm. Donc, c'est une infection qui n'est pas à prendre à la légère, principalement parce que c'est un nouveau virus, donc il n'y a pas d'immunité dans la population. Parce qu'on n'a pas de vaccin, parce qu'on n'a pas de traitement spécifique et aussi parce que ce virus-là semble avoir une virulence particulière. On l'a déjà vu avec certains décès qui ont été constatés en Chine.
Oui. La particularité, c'est la propagation. Et là, au départ, on avait le point d'interrogation à dire est-ce qu'on peut le donner à un autre humain? Et là, oui. Ben, ça semble se confirmer, là.
Oui, effectivement. Pour l'instant, l'hypothèse principale, c'est que ce virus-là viendrait d'un réservoir animal qui n'a pas été encore identifié. Mm-hmm. Je vous dirais que ça aussi, ça a déjà été rencontré, entre autres, certains coronavirus qui avaient été isolés chez des dromadaires au Moyen-Orient. Donc, c'est un virus probablement davantage animal, mais mm-hmm. qui a acquis la capacité de se transmettre à l'humain. Et pour l'instant, effectivement, il semble aussi y avoir une transmission interhumaine, mais qu'on dit limitée.
Okay.
Puis je vous dirais que ça a été le cas dans l'histoire aussi. Ce sont des virus qui n'ont jamais été capables de se transmettre aussi efficacement, comme par exemple la grippe, l'influenza, ça se transmet
à large échelle.
Facilement.
Ouais.
Les coronavirus, généralement, c'est plus limité, surtout les coronavirus d'origine animale, mais on doit être très prudent et on n'est jamais à l'abri d'une mutation du virus qui le rendrait plus transmissible. Donc, mm-hmm. c'est un peu ces éléments-là qui amènent, disons, des précautions accrues.
Bon, reste à voir maintenant ce que les autorités en feront, mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que pour tel type de virus, ben c'est tout est une question soit de vaccin ou de médication. Puis dans ce cas précis, comme étant quelque chose qui émerge et qui commence à toucher l'humain, on est au balbutiement de la recherche, là.
Oui, bien, encore une fois, on peut s'inspirer d'autres coronavirus. Donc, c'est pas totalement inconnu.
OK.
Faut pas non plus dire, bon, les patients infectés sont condamnés à la mort. Bien, déjà, on a vu quand même la majorité des patients semblent s'en tirer.
Oui.
On voit
le
patient aux États-Unis aussi qui semble bien se porter. Faut dire aussi qu'aujourd'hui, disons par rapport à il y a 20 ans, déjà les traitements de support dans les unités de soins intensifs sont beaucoup plus efficaces. Donc le temps que le système combatte l'infection, on est capable d'assumer un support aux patients qui va permettre de passer à travers la tempête, si on peut dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement spécifique, que les patients sont automatiquement condamnés à la mort. Je vous dirais que pour la majorité des infections virales, on n'en a pas de traitement spécifique.
Mm-hmm.
Et généralement, on s'en tire plutôt bien. Mais c'est quand même important de prendre ce virus-là très au sérieux. L'expérience du SRAS nous a montré que la majorité de la transmission secondaire, parce que là, on a vu un premier cas aux États-Unis, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait au Québec, au Canada. je vous dirais, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va mm-hmm. en avoir comme il va en avoir dans d'autres pays. Donc, c'est important d'être prêt pour limiter la transmission dans nos communautés. Puis comment ça se fait? Encore une fois, l'expérience du SRAS nous a montré que oui. malheureusement, oui. la majorité de la transmission s'était faite dans les hôpitaux. Des patients oui. qui étaient mal isolés, qui oui. étaient mal diagnostiqués et qui avaient contribué à répandre, à créer mm-hmm. des cas secondaires. Oui. Donc là, ça va être très important. Puis je dirais que ça, c'est un élément qui a évolué aussi beaucoup depuis le SRAS. On a des protocoles déjà en place, des protocoles qu'on appelle pour les maladies respiratoires sévères d'origine infectieuse qui englobent tous les virus émergents.
Okay.
Parce qu'on l'a dit tantôt, on fait face à la menace de la grippe aviaire. Il y avait ouais. déjà des coronavirus, donc on a des protocoles qui englobent tous ces virus-là, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau, on n'est pas obligé de réinventer la roue.
Je comprends.
Donc, le protocole qu'on applique à potentiellement un patient potentiellement infecté par le coronavirus, c'est le même qu'on appliquerait à un patient chez qui on suspecterait une grippe aviaire. Donc, mm-hmm. des mesures d'identification précoce du patient. Donc, ça commence dès le triage. Les patients ouais. ont des questions très rapidement sur la fièvre, symptômes respiratoires, retour de voyage, quel pays.
Mm-hmm.
Comme par exemple, cette semaine, je suis de garde avec les patients. Si on a un patient à l'urgence qui revient avec d'un voyage de la Chine avec des symptômes respiratoires, de la fièvre, automatiquement, ce patient-là, avant même qu'on ait un diagnostic, il va être mis en isolement avec des mesures exceptionnelles. On parle de chambre à pression négative pour contenir le virus à l'intérieur de la chambre, des équipements de protection personnelle très avancés. Le personnel qui va se rendre dans cette chambre-là doit avoir été formé au préalable. Donc, il y a une série de mesures qui sont mises en place pour limiter la transmission. L'autre chose, c'est que déjà, nos laboratoires de santé publique ont été très proactifs et sont déjà en mesure, même si c'est un virus qui a été isolé tout récemment,
oui.
sont déjà en mesure de le diagnostiquer. Donc, okay. on pourrait envoyer des spécimens, puis au Québec, on est capable d'identifier ce virus-là déjà et de confirmer la maladie.
Ah oui.
Donc, il y a quand même
un protocole.
Des éléments rassurants.
Oui, absolument. Il y a vraiment déjà, puis il faut, comme on dit, il faut avoir appris de ce qu'on a déjà vécu oui. avec des virus similaires. Alors, c'est ce que vous dites, c'est qu'on ne tombe pas des nues, là. On sera capable d'agir et de réagir rapidement.
Oui, puis je vous dirais que, heureusement ou malheureusement, on a souvent des fausses alertes.
Oui.
Justement, des gens qui reviennent de voyage de la Chine font de la fièvre. Donc là, auparavant, on s'inquiétait pour la grippe aviaire.
Mm-hmm.
Donc, on a déjà eu des pratiques, entre guillemets. Finalement, ça s'est avéré des fausses alertes, mais pour un peu huiler, ça nous a servi un peu à huiler la machine pour
oui.
être capable de mesurer, de réagir lorsque ça va se produire. Ceci étant dit, je pense que ça demeure des protocoles très complexes. On essaie de faire des pratiques occasionnellement, mais on va devoir demeurer très vigilant dans le cas où on avait un cas.
Ouais, absolument. Docteur Alex Carignan, merci énormément de votre éclairage.
Ça fait plaisir. Bonne journée.